La notion de valeur est au centre de la philosophie. Toute réflexion portant sur la notion de valeur, sur une hiérarchie de valeurs, est philosophique. Tout effort de pensée portant sur un objet autre que la valeur est, si on l'examine de près, étranger à la philosophie. Par là, la valeur de la philosophie elle-même est hors de discussion. Car, en fait, la notion de valeur est toujours présente à l'esprit de tous les hommes. Tout homme oriente toujours ses pensées et ses actions vers quelque bien, et il ne peut pas faire autrement. D'autre part, la valeur est exclusivement un objet de réflexion, elle ne peut être un objet d'expérience. En un sens, la loi de la vie humaine est d'abord philosopher, puis vivre. Car le choix entre la vie et la mort, dans une situation déterminée, implique lui-même une comparaison de valeurs. Presque jamais, il est vrai, les hommes ne font porter leurs réflexions sur les valeurs qui orientent leurs efforts. Mais c'est qu'ils croient avoir des motifs suffisants pour les adopter. Un critérium des valeurs est pour tout homme la suprême nécessité. Mais c'est aussi ce que nul homme ne peut jamais atteindre. Car toute connaissance humaine est hypothétique. Les démonstrations procèdent de théorèmes antérieurement démontrés ou d'axiomes. Les faits constatés, grâce aux organes des sens, ne sont admis comme des faits que pour autant qu'ils s'enchaînent avec d'autres faits. Mais la valeur ne peut pas être matière à hypothèse. Une valeur, c'est quelque chose qu'on admet inconditionnellement. Car à chaque instant, notre vie s'oriente, en fait, selon quelques systèmes de valeurs. Un système de valeurs, au moment où il oriente une vie, n'est pas accepté sous condition, mais purement et simplement accepté. La connaissance étant conditionnelle, les valeurs ne sont pas susceptibles d'être connues. Mais on ne peut pas renoncer à les connaître, car ce serait renoncer à y croire, ce qui est impossible, parce que la vie humaine ne peut pas ne pas être orientée. Ainsi, au centre de la vie humaine, il y a une contradiction. Ces considérations semblent abstraites à cause de la difficulté de les exprimer par le langage. Néanmoins, cette contradiction constitue continuellement sous diverses formes le drame essentiel de tout être humain, et il est facile d'en donner autant d'exemples concrets qu'on veut. Ainsi, tout artiste sait qu'il ne peut y avoir de critérium permettant d'affirmer avec certitude que telle œuvre est plus belle que telle autre. Pourtant, tout artiste sait qu'il y a une hiérarchie des valeurs esthétiques, qu'il y a des choses plus belles que d'autres, ou qu'il y a des choses qui sont belles et d'autres qui ne le sont pas. S'il ne le savait pas, il ne ferait pas l'effort nécessaire pour accomplir une œuvre. Il ne corrigerait pas, il ne continuerait pas. Cette condition de l'artiste, obligé de tendre sans cesse vers une beauté qu'il ignore, met une nuance d'angoisse dans tout effort de création artistique. Toute situation humaine peut faire l'objet d'une analyse analogue. Tout ce qui est susceptible d'être pris comme fin échappe ainsi à toute définition. Les moyens, tels que la puissance, l'argent, se laissent aisément définir. Et c'est pourquoi tant d'hommes s'orientent exclusivement vers l'acquisition de moyens. Mais ils tombent alors dans une contradiction, car il y a contradiction à prendre comme fin de simples moyens. L'éditeur note qu'ici, un fragment de manuscrit de Simone Weil manque. Que peut demander de plus un esprit qui établit un tel ordre entre les valeurs. Doit-il encore répondre à la question « Est-il sûr que quelque chose est une valeur ? Est-ce que tout n'est pas également sans valeur ?» Une telle question est vide de sens, non seulement parce qu'il ne peut y avoir aucune méthode pour en chercher la réponse, mais par une raison plus profonde. Le pouvoir de poser une telle question repose entièrement sur le pouvoir d'assembler des mots. Mais l'esprit ne peut pas véritablement poser cette question. Il ne peut pas véritablement être incertain si la notion de valeur est ou non quelque chose de fictif, car l'esprit est essentiellement toujours, de quelque manière qu'il soit disposé, une tension vers une valeur. Il ne peut regarder la notion même de valeur comme incertaine sans regarder comme incertaine sa propre existence, ce qui lui est impossible. Quant à l'ordre même établi par la réflexion entre les valeurs, quelle incertitude peut-on élever à ce sujet? Le principe même de cet ordre empêche qu'on puisse en élever aucune. Car dès qu'un ordre m'apparaît entre mes pensées, tel que la valeur d'un certain jugement soit une condition de la valeur de tous les autres, sauf ceux qui viennent avant lui et que je connais, que demander de plus? Puis-je supposer quelque autre idée, ignorée de moi, plus vraie que celle que j'ai mise en tête du classement et qui peut-être les contredit? Mais une comparaison de valeurs entre deux idées implique un même esprit qui les pense toutes deux. L'idée supposée doit donc être conçue comme pouvant être pensée par moi. Mais alors, je la concevrais comme pouvant être classée dans la hiérarchie des idées, après les premières, et elle n'aurait pas plus de valeur qu'elle. Puisque la valeur est un caractère de ma pensée, la hiérarchie que j'aperçois entre les valeurs est certaine. Rien d'extérieur à ma pensée ne saurait la démentir. Rien d'extérieur à ma pensée ne peut intervenir dans la notion de valeur. Et pour bien voir la portée de cela, il faut se souvenir que la vérité est une valeur de la pensée. Le mot de vérité ne peut avoir d'autre sens. Ainsi, la rigueur et la certitude de l'investigation philosophique sont aussi grandes qu'elles peuvent l'être. Les sciences n'en approchent pas de très loin. Faut-il conclure que la réflexion philosophique est infaillible? Oui, elle est infaillible pour autant qu'elle s'exerce. Mais la condition humaine rend l'exercice de la réflexion, au sens rigoureux du mot, presque impossible. Car puisque l'esprit est une tension vers quelque valeur, comment se détacherait-il de la valeur vers laquelle il est tendu pour la considérer, la juger et la mettre à son rang par rapport aux autres? Ce détachement exige un effort, et tout effort de l'esprit est une tension vers une valeur. Ainsi, pour opérer ce détachement, l'esprit doit regarder ce détachement même comme la suprême valeur. Mais pour voir dans le détachement une valeur supérieure à toutes les autres, il faut déjà être détaché de toutes les autres. Il y a là un cercle vicieux qui fait apparaître l'exercice de la réflexion comme un miracle. Le mot de grâce exprime ce caractère miraculeux. L'illusion du détachement est fréquente, car on prend souvent pour détachement un simple changement de valeur. Le joueur, dans la pleine excitation du jeu, haletante et angoissé, ne se demande pas pourquoi il désire gagner, dans quelle mesure il a raison de désirer gagner. Il ne peut pas se le demander. Après quelques heures de cette angoisse, cette question apparaît peut-être à son esprit. Ce n'est pas qu'il se soit détaché. C'est que, par l'effet de l'épuisement, la valeur est devenue pour lui le repos et non plus le gain. Le détachement exigé par la réflexion philosophique consiste à se détacher non seulement des valeurs adoptées il y a une heure, hier, il y a un an, mais de toutes les valeurs sans exception, y compris celles vers lesquelles on est actuellement tendu. Un joueur qui, au moment même où il est haletant dans l'attente du gain, mettrait le gain au même rang que le repos, la volupté de bien manger, le travail bien fait, l'amitié ou n'importe quel objet de désir possible, et comparerait impartialement ces divers objets, telle est l'image du détachement. Il s'agit bien d'un miracle. On voit assez par là que la philosophie ne consiste pas en une acquisition de connaissances, ainsi que la science, mais en un changement de toute l'âme. La valeur est quelque chose qui a rapport non seulement à la connaissance, mais à la sensibilité et à l'action. Il n'y a pas de réflexion philosophique sans une transformation essentielle dans la sensibilité et dans la pratique de la vie. Transformation qui a une égale portée à l'égard des circonstances les plus ordinaires et les plus tragiques de la vie. La valeur n'étant qu'une orientation de l'âme, poser une valeur et s'orienter vers elle ne sont qu'une seule et même chose. Si l'on pense à la fois deux valeurs, ce qui peut produire un déchirement, on s'oriente davantage vers celle à laquelle on donne le premier rang. La réflexion suppose une transformation dans l'orientation de l'âme que nous nommons détachement. Elle a pour objet d'établir un ordre dans la hiérarchie des valeurs, donc encore une orientation nouvelle de l'âme. Le détachement est un renoncement à toutes les fins possibles, sans exception. Renoncement qui met un vide à la place de l'avenir, comme ferait l'approche imminente de la mort. C'est pourquoi, dans les mystères antiques, dans la philosophie platonicienne, dans les textes sanscrits, dans la religion chrétienne, et très probablement toujours et partout, le détachement a toujours été comparé à la mort. Et l'initiation à la sagesse regardée comme une sorte de passage à travers la mort. Cette idée se trouve dans les textes les plus anciens que nous possédions concernant la pensée humaine, ceux de l'Égypte. Et elle est sans doute aussi ancienne que l'humanité. Ainsi, toute recherche de la sagesse est orientée vers la mort. Mais le détachement dont il s'agit n'est pas vide d'objet. La pensée détachée a pour objet l'établissement d'une hiérarchie vraie entre les valeurs, toutes les valeurs. Elle a donc pour objet une manière de vivre, une meilleure vie, non pas ailleurs, mais en ce monde et tout de suite, car les valeurs mises en ordre sont des valeurs de ce monde. En ce sens, la philosophie est orientée vers la vie. Elle vise la vie à travers la mort. Mais l'ordre de valeurs, établi par la réflexion, n'est pas établi une fois pour toutes. L'âme ne s'y enferme que dans la mesure où elle le pense, et ne le pense que par un effort de réflexion. Ainsi, la sagesse est une pulsation continuelle de la mort à la meilleure vie et de la meilleure vie à la mort. Sans cette pulsation, il y aurait déchéance. L'affirmation que la réflexion philosophique est infaillible est absolument contraire à l'opinion commune. On ne voit généralement dans la philosophie que conjecture. Ce qui motive cette opinion, ce sont les contradictions entre les systèmes et à l'intérieur de chaque système. On croit généralement que chaque philosophe a un système qui contredit tous les autres. Or, bien loin que ce soit le cas, il existe une tradition philosophique vraisemblablement aussi ancienne que l'humanité et qui, il faut espérer, durera autant qu'elle. De cette tradition, comme d'une source commune, s'inspirent non pas, il est vrai, tous ceux qui se disent philosophes, mais plusieurs d'entre eux, de sorte que leurs pensées sont à peu près équivalentes. Platon est le représentant le plus parfait, sans doute, de cette tradition. La Bhagavad Gita s'en inspire d'eux-mêmes. Et on trouverait aisément des textes égyptiens et chinois à nommer à côté. En Europe, dans les temps modernes, il faut citer Descartes et Kant. Parmi les penseurs plus récents, Lagnau et Alain, en France, Husserl en Allemagne. Cette tradition philosophique, c'est ce que nous nommons ici la philosophie. Loin qu'on puisse lui reprocher ses variations, elle est une, éternelle, et non susceptible de progrès. Le seul renouvellement dont elle soit capable est celui de l'expression. Quand un homme se l'exprime à lui-même et l'exprime à ceux qui l'entourent en des termes qui ont rapport avec les conditions de l'époque, de la civilisation, du milieu où il vit. Il est désirable qu'une telle transposition s'opère d'âge en âge. Et c'est la seule raison pour laquelle il peut valoir la peine d'écrire, sur un pareil sujet, après que Platon a écrit. L'identité profonde de ces philosophies est cachée par des différences apparentes qui tiennent à des difficultés de vocabulaire. Le langage n'est pas fait pour exprimer la réflexion philosophique. La réflexion ne peut utiliser le langage que par une adaptation des mots qui en transforment le sens sans que leur signification nouvelle puisse être elle-même définie par des mots. Cette signification n'apparaît que par l'ensemble des formules par lesquelles l'auteur exprime sa pensée. Il faut donc non seulement connaître toutes ces formules, mais les apercevoir comme un ensemble. Et à cet effet, les considérer du même point de vue que l'auteur, se placer au centre de pensée de l'auteur. Il en est d'une œuvre philosophique comme de certains tableaux. Ils ne sont qu'un amas informe de couleurs jusqu'à ce qu'on se soit placé à un certain point d'où tout s'ordonne. Ainsi, comparer les affirmations de différents auteurs, cela n'a aucun sens. Si on veut les comparer, il faut se placer au centre de pensée de chacun, et on se rendra compte alors si leurs œuvres procèdent ou non du même esprit. Or, cet effort, un philosophe peut fort bien ne pas le faire à l'égard de ses prédécesseurs, et par suite ignorer qu'il est pareil à eux. Mais qu'il l'ignore ou le sache, cela n'importe guère. Il est vrai qu'il y a des auteurs qui ne s'inspirent pas de cette tradition. Cela n'a rien de surprenant, puisque la réflexion philosophique implique le détachement et que le détachement est une sorte de miracle. Bien des auteurs qui se croient et sont crus philosophes sont incapables de réflexion au sens rigoureux du mot, ou n'en sont pas capables d'une manière assez soutenue pour que toute leur œuvre s'en inspire. Néanmoins, parmi ces auteurs, certains sont presque de premier ordre, et leurs œuvres méritent le plus grand intérêt. D'ailleurs, les auteurs mêmes qui pratiquent la réflexion ne s'en inspirent pas continuellement et en tout point. Leur pensée a des défaillances. Et ces défaillances causent parfois les divergences entre penseurs de même race. Quant aux contradictions, toute pensée philosophique en contient. Loin que ce soit une imperfection de la pensée philosophique, c'en est un caractère essentiel sans lequel il n'y a qu'une fausse apparence de philosophie. Car la vraie philosophie ne construit rien. Son objet lui est donné. Ce sont nos pensées. Elle en fait seulement, comme disait Platon, l'inventaire. Si, au cours de l'inventaire, elle trouve des contradictions, il ne dépend pas d'elle de les supprimer, sous peine de mentir. Les philosophes qui essaient de construire des systèmes pour éliminer ces contradictions sont ceux qui justifient en apparence l'opinion que la philosophie est quelque chose de conjectural. Car de tels systèmes peuvent être variés à l'infini, et il n'y a aucune raison d'en choisir un plutôt qu'un autre. Mais du point de vue de la connaissance, ces systèmes sont au-dessous même de la conjecture, car les conjectures sont des pensées inférieures, et ces systèmes ne sont pas des pensées. On ne peut pas les penser. On ne le peut pas, car si on le pouvait fût-ce un instant, on éliminerait pendant cet instant les contradictions dont il s'agit, et on ne peut pas les éliminer. Les contradictions que la réflexion trouve dans la pensée quand elle en fait l'inventaire sont essentielles à la pensée, y compris la pensée des fabricants de systèmes. Elles sont présentes à leur pensée pendant le temps même où ils élaborent, où ils exposent leur système. Mais ils font des mots un usage qui n'est pas conforme à leur pensée, et cela par excès d'ambition. Ainsi, ceux qui nient la réalité du monde extérieur, au moment où ils disent qu'ils la nient, ont de la réalité de leur table et de leur chaise le même sentiment que n'importe quel paysan. Ils font entre leur perception et leur rêve la même différence que n'importe quel paysan. Pour prendre un exemple encore plus clair, dire qu'une ligne a une certaine longueur et en même temps contient un nombre infini de points implique contradiction. C'est penser la même chose comme fini et comme infini. Mais les Grecs, qui disaient qu'une ligne est composée d'un nombre fini de points, étaient seulement poussés par le désir d'éliminer cette contradiction. Ils ne pensaient pas ce qu'ils disaient. On ne peut pas le penser. On ne peut pas penser une partie de ligne répétée dans la ligne un nombre fini de fois, autrement que comme une longueur. On ne peut pas penser une longueur indivisible. La contradiction qu'on voulait éliminer reparaît. Il valait mieux l'exposer. Un progrès décisif serait réalisé si l'on se décidait à exposer honnêtement les contradictions essentielles à la pensée au lieu de chercher vainement à les écarter. Un grand nombre de formules vides de sens disparaîtraient ainsi non seulement de la philosophie, mais aussi des sciences, y compris les plus précises. Quant au système complet, construit dans le dessein d'éliminer toutes les contradictions essentielles de la pensée, on comprendrait que, s'ils ont une valeur, elle ne peut être que poétique. C'est ici que l'affirmation de Valéry est tout à fait juste.